affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Alors que nous enregistrons notre émission, les bistrots, bars et restaurants de Paris et de province s'apprêtent à fêter, comme chaque troisième jeudi du mois de novembre, l'arrivée du Beaujolais nouveau. Si cette tradition n'est pas très ancienne, elle date des années 50, cette inscription dans le calendrier national d'une telle date et l'engouement qu'elle provoque suffit à démontrer la place particulière qu'occupe le vin dans notre imaginaire. En France, le vin fait partie de l'agriculture, mais aussi de la culture. Il est une culture. Une culture à la fois populaire et savante, un bien commun qui rassemble par-delà les classes sociales. Le jour du Beaujolais nouveau est un jour de partage au cours duquel l'ensemble des Français se réunissent autour des comptoirs, amateurs éclairés ou débutants, dans un plaisir parfois gustatif, mais surtout social. En France, c'est ainsi, le vivre ensemble passe aussi par le boire ensemble. Et si nous sommes un certain nombre à être Charlie, nous sommes tous un peu Chablis. Tout cela est certainement incontestable et se vérifiera avec notre invité d'aujourd'hui. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Yves-Marie Berset, professeur émérite d'histoire moderne à la Sorbonne, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui a récemment publié un ouvrage consacré au secret du vin. Un ouvrage qui, sans remettre en cause les liens particuliers qui nous unissent à ce breuvage, nous Français, nous oblige tout de même à admettre que l'histoire du vin n'est pas seulement tricolore, elle n'est pas seulement française, elle est proprement universelle. Est-ce bien cela, monsieur ?
Oui, eh bien, bonjour, je suis très heureux de venir parler du vin, donc, comme vous l'avez dit, au mois de novembre, qui est, de tout temps à jamais, l'arrivée du vin nouveau, de la première fermentation, si on peut dire, le moment où le vin de Bordeaux partait pour l'Angleterre, le moment où les foires de Bourgogne, où les vins de Bourgogne sont mis aux enchères à Beaune. Voilà, c'est une date, un moment du calendrier qui est très important dans la vie sociale et dans l'accomplissement des rites du vin.
Parce que, puisqu'il est question d'histoire, une histoire a toujours un début et une fin. Est-ce qu'on peut dater les origines du vin ? Dans l'histoire humaine.
De la nuit des temps, certainement, et en tout cas de l'âge du bronze, puisque des fouilles archéologiques dans la zone du Caucase, de l'Arménie, ont montré que dès les premières civilisations agraires qui ont des cités murées, une viticulture organisée, on a effectivement des traces, la certitude dans des amphores, dans des débris d'amphores, qu'il y a eu justement une viticulture. Je dirais que le vin, au fond, il faut bien comprendre, n'a jamais été inventé. Il est naturel, parce que la fermentation des vignes sauvages et veut dire n'a pas besoin d'aide de l'homme. Je peux évoquer, si vous voulez, un petit souvenir d'enfance. Je me souviens en Bordelais que dans la campagne, les poules allaient après la vendange s'égarer, si vous voulez, dans les vignes et picorer les raisins tombés, échappés aux vendangeurs, qui avaient continué à fermenter et qui revenaient sur les chemins en zigzagant parce qu'elles étaient sous le vin, si vous voulez, s'invente spontanément. Il est produit par la nature, il n'y a pas besoin. Si, bien sûr, il est amélioré par une viticulture savante, mais il vient spontanément.
Alors, en revanche, dans le Caucase, ce qu'on constate, c'est le mot est peut-être un peu fort, hein, un début d'industrie du vin, de stockage du vin, des procédés de vinification plus élaborés.
Oui, très tôt, on sait par exemple, Hérodote raconte que la grande ville de Babylone est approvisionnée par des vins qui descendent des fleuves dans des outres qui sont de peau, goudronnées pour les rendre étanches, et des vins qui viennent d'Amon, qui viennent donc des hauteurs de l'Anatolie ou de l'Arménie.
Alors, puisqu'on y est, en Arménie, il y a également le mont Ararat, et ici, l'histoire...
Oui, alors là, on a bien sûr, inévitablement, la référence biblique, puisque Noé, à la descente de l'Arche, son premier geste de retour à la vie quotidienne agraire, c'est de planter une vigne et l'année suivante de vendanger, de la récolter au point de s'en enivrer au scandale relatif de certains de ses fils. Et cet épisode de l'ivresse de Noé annonce le renouveau de l'industrie des hommes, des travaux de la terre. C'est, je crois, très important de voir que le symbole premier, principal, si vous voulez, de retour à la quotidienneté, à la vie normale, c'est la plantation de la vigne et son abus, son ébriété. Ébriété qui n'est pas, qui est peut-être scandaleuse, mais qui est en même temps prophétique, puisqu'elle annonce des temps nouveaux. Ensuite, on peut dire sans blasphème que aux temps évangéliques, la boisson du vin est un usage courant au temps de Jésus, aux noces de Cana et dans la fondation de l'Eucharistie. Le vin est aussi évident que le pain. Ça veut dire que c'est un usage quotidien. Il devient sacré par le geste du Christ fondant l'Eucharistie, mais d'un point de vue d'histoire des mœurs, d'un point de vue de regard matérialiste, il est en fait la boisson la plus évidente dans la Palestine du temps de Jésus.
Toutefois, l'histoire de Noé nous apprend aussi qu'il y a d'emblée une ambivalence dans le vin. C'est-à-dire que les signes de renouveau, mais aussi éventuellement de chute.
L'ébriété, effectivement, mais cette ébriété est en même temps, comme je l'ai dit, prophétique. Certes, elle ne disqualifie pas Noé, si vous voulez, dans sa mission, on dirait... diachronique, elle annonce un temps nouveau. D'ailleurs, l'ébriété, c'est la communication avec peut-être des esprits, avec un pan surnaturel de la pensée qui peut être grotesque, qui peut être odieux, mais qui en même temps apporte la joie, l'illusion du bonheur.
Alors revenons en Arménie, de l'autre côté du mont Ararat, on change de monde, on arrive en Anatolie, si je ne me trompe pas, dans le monde perse en tout cas, et là j'ai appris avec beaucoup de surprise que jusqu'à une date très avancée, dans le monde perse, fut-il musulman, on produisait et même consommait du vin jusqu'à la cour des sultans.
Dans l'Empire ottoman et dans l'Empire perse, même dans l'Empire ottoman, à Constantinople, il y avait au XVIIIe siècle un très grand nombre de cabarets, sans doute fréquentés plus par les Grecs ou par les marchands occidentaux, mais il y avait des vignes cultivées par des paysans musulmans en Perse, en Palestine et bien sûr dans aussi les rives de la Caspienne, sur les pans du Caucase. Il n'y avait pas ce rejet, si vous voulez, qui est beaucoup plus contemporain de la consommation d'alcool, qui était plus toléré certainement au XVIIIe et début du XIXe siècle, à la fois dans l'Empire ottoman et dans l'Empire perse. Et alors au point qu'effectivement, dans les rives du golfe Persique, du côté persan, des vignobles de qualité produisaient des vins liquoreux qui étaient transportés par voie de mer aux Indes, dans les comptoirs portugais, par exemple à Goa, Diu, Daman, les différentes colonies portugaises, et puis même jusqu'en Indonésie, dans l'insule indo-hollandaise.
Oui, c'est ce qu'on découvre également en suivant votre ouvrage, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de mondialisation, et notamment à propos du vin. On se rend compte que décidément, ça ne date pas d'hier,
ni même d'avant hier. Le commerce du vin est, bien sûr, pluriséculaire. Ce qu'on peut dire, dans une répartition géographique très vaste, c'est que les vignobles, de par leur nécessité d'ensoleillement, sont plutôt à l'origine méditerranéens, grecs, italiens, espagnols, français. Mais que les marchands qui le transportent, qui le diffusent dans le monde, ce sont des marins du Nord, des Hollandais, des Anglais avant tout. Donc on a symétrie, si vous voulez, une production méditerranéenne et une diffusion des marins du Nord qui donc s'accentue avec la montée en puissance des puissances du Nord-Ouest, des nations du Nord-Ouest, les Hollandais et les Anglais, à la fin du XVIe siècle.
Au point qu'il participe à la création de...
Et alors, on s'aperçoit, bien sûr, que des vignobles fameux, comme ceux de Madère, des Canaries, de l'Andalousie, le Rérès, le Malaga, le Malaga, le vin d'Alicante pour l'Espagne, le Marsala en Sicile, ces vins, le Porto au Portugal, leurs fortunes et leurs infortunes dérive directement des transports et des spéculations des marchands anglais et des caprices de la consommation des buveurs londoniens ou d'Amsterdam ou Rotterdam. Transporter le vin depuis le sud de l'Atlantique, l'Atlantique des îles portugaises ou espagnoles, les Anglais et les Hollandais avaient de tout temps l'usage d'interrompre une fermentation parasite qui viendrait du tangage et du roulis, de changement de température au cours d'une longue navigation, d'arrêter cette fermentation parasite en ajoutant de l'alcool, ce qui un vin qui fermente, il a un bruit. Et si on ajoute de l'alcool, on arrête la fermentation, il devient muet. C'est ce qu'on appelle le mutage. Donc il y a une manière anglaise ou hollandaise de faire transporter le vin en y ajoutant de l'alcool. Et dans des proportions parfois très élevées, qui correspondent donc à une précaution, une technique, si vous voulez, de transport par mer, et aussi à l'évolution, enfin au goût des consommateurs des pays du Nord. Dans les pays où il pleut, où il y a du brouillard, on veut boire un vin très fort, qui non pas à 10-12 degrés, mais à 17-18 degrés, et qui permet de basculer dans l'ivresse très vite, puisque c'est ce que cherchent, on le voit dans l'histoire de la consommation, les consommateurs anglais et américains, des Américains du Nord, des colonies anglaises de l'Amérique du Nord, il s'agit d'être ivre très vite.
Et aujourd'hui,
ça fait partie vraiment d'un trait de civilisation. C'est pas quelque chose qui est considéré comme choquant, comme ce serait en Italie ou en France. À Londres, c'est normal.
Oui, tant et si bien que vous nous dites qu'au départ, on rajoute de l'alcool dans le Porto, dans le port de départ, pour qu'on puisse traverser.
Et ensuite, il faut dire que la mise en bouteille est très tardive. On consomme le vin, on le transporte dans des tonneaux de bois. Et ensuite, arrivant dans les celliers des ports, dans les caves des Portsmouth, de Bristol ou de Londres, on lui fait subir un autre trafic, si vous voulez, pour l'alcooliser encore plus au goût anglais, ou même pour éventuellement le parfumer avec de la cannelle, des jus d'orange ou que sais-je. Et il y a donc une transformation véritable là qui est opérée et qui fait que ce vin là, qui devient liquoreux, qui devient beaucoup plus alcoolisé, ne ressemble pas du tout au Bordeaux ou au Porto d'origine.
Mais désormais, le Porto produit au Portugal ressemble à celui qui est exporté, c'est-à-dire que c'est un vin d'exportation qui revient ensuite dans la tradition nationale, ou c'est complètement différent?
Oui, c'est-à-dire qu'on voit que le Porto qui se développe à la fin, enfin le vignoble de Porto sur les pentes qui dominent le cours du Douro est très très ancien. Les Anglais lâchaient des accords commerciaux des marchands anglais et portugais, échangeant le vin portugais contre les laines anglaises dès le XIIIe, XIVe siècle. Mais ensuite, à la fin du XVIIe siècle, en 1662, c'est le mariage de Charles II d'Angleterre avec Catherine de Bragance, héritière de... enfin, princesse de Portugal, qui amène une accentuation du commerce anglais diffusant le Porto. À ce moment-là, le Porto est un vin rouge léger que l'on boit au cours du repas. Et puis, au cours du XVIIIe siècle, du fait de l'intensité du commerce anglais et des transformations qu'ils font subir à ce vin, il devient un vin de dessert, ce qu'il est aujourd'hui en Angleterre. Et depuis la fin du XVIIIe siècle, en France, on le prend plutôt en apéritif, alors que les Anglais le prennent toujours, enfin, depuis la fin du XVIIIe siècle, en dessert.
Dans tous ces vins que vous avez cités, d'ailleurs, les vins liquoreux sont extrêmement nombreux. Il semble que c'était plus répandu auparavant.
Dans l'histoire du goût, alors là, aussi bien du goût français ou italien, ce qu'on préfère au XIVe, au XVe siècle, au XVIe siècle, ce sont des vins blancs liquoreux, qui, le modèle étant les vins venant de Grèce, sous le nom générique de Malvoisie, qui désigne originellement un lieu, un port de la mer Égée, au sud du Péloponnèse, et qui ensuite a désigné certains cépages venant de Grèce, du Péloponnèse ou de Crète, qui ont été transportés à Madère, aux Canaries, etc. Et le terme ensuite de Malvoisie s'est étendu à toutes sortes de vins blancs liquoreux venant de la Méditerranée. C'était ça qui était préféré par les consommateurs aristocrates, enfin fortunés, qui pouvaient se permettre l'achat de ces vins. Aujourd'hui, enfin au cours du 18e, du 19e siècle, le goût a évolué vers des vins plutôt des rouges légers. On a là une transformation qui s'est fait sur plusieurs siècles, mais qui est vraiment très caractéristique, passer des vins blancs liquoreux au rouge plutôt léger et facile à boire, c'est une transformation essentielle dans l'histoire de la consommation.
Alors puisqu'on parle de ces vins liquoreux, à la cour des papes d'Avignon que vous évoquez, il y avait quand même d'ores et déjà des vins qui descendaient depuis la Bourgogne par la vallée du Rhône jusqu'à la cour des papes.
Oui.
Est-ce que c'était déjà du coup des vins rouges un peu légers comme ceux qu'on peut trouver en Bourgogne?
Alors voilà, depuis le début du XIVe siècle, 1307 jusqu'aux années 1360, la papauté a pris résidence à Avignon du fait des dangers, des querelles entre les grandes familles nobilières qui possèdent les terres du Latium, et qui donc rendent dangereux le séjour des papes à Rome. avec la protection du roi de France et aussi l'accord du roi d'Angleterre, puisqu'on espère à ce moment-là que le pape puisse négocier une paix durable entre les Plantagenets et les Valois, la papauté implantée à Avignon attire donc, transforme cette petite ville en une cité florissante qui attire chaque année des dizaines de milliers de voyageurs, de gens qui viennent négocier ou commercer avec la cour pontificale. Alors Avignon est très bien situé sur le Rhône, un peu en amont des grandes foires de Beaucaire et à proximité de vignobles dans le territoire d'Avignon lui-même, dans le comtat, mais aussi de l'autre côté de la rivière, sur la rive droite, avec les vins dits des Côtes-du-Rhône qui portent déjà ce nom-là et qui vont donc être promus commercialement et
traverser la rive.
Traverser la rive, c'est juste en face, à travers le pont Bénazé. Et l'appellation Côtes-du-Rhône existe déjà. Et puis, ce qui est le plus apprécié à cette époque, encore aujourd'hui, mettons, ce sont les Bourgognes. Les Bourgognes qui viennent alors d'amont et qui descendent la Saône, le Rhône, pour arriver à Avignon. Et très tôt, donc dans les années 1320, l'abbé de Citeaux approvisionne régulièrement la cour pontificale.
Et alors, ce sont quel type de vin, du coup ? Est-ce qu'ils ressemblent
à une proportion gardée ? C'est le cépage qui domine déjà. C'est le pinot noir qui est plutôt le haut des collines et qui donne un vin de qualité, avec sur les pentes le gamay qui est beaucoup plus rude qu'on maintient tout de même parce qu'il est plus coulant, qu'il produit plus abondant en production.
Donc là, ce sont déjà des vins légers.
On dira des rouges légers, mais qui... il faut dire que, pour les Bourgognes, mais pour tous les vins, le vieillissement n'existe pas. S'il peut survenir, il est tout à fait accidentel et exceptionnel. Le vieillissement n'est possible qu'à partir de la fin du XVIIe siècle. Il faut pour ça que l'on puisse avoir un récipient qui soit hermétiquement clos, bouché, embouché les amphores ou des flacons de verre plus rarement. On les bouchait avec une couche d'huile ou bien avec une coulure de cire, mais qui n'était pas hermétique, de sorte que très à la fin du printemps ou de l'été, le vin pouvait facilement, très souvent, la plupart du temps, et devenait aigre. Alors, pour qu'on puisse acquérir, passer plusieurs années, il faut qu'il y ait une obturation hermétique, et ce qui s'est passé au cours du XVIIe siècle, c'est l'amélioration des récipients en verre qui, au lieu d'être arrondi, tendait plutôt à pouvoir être couché horizontalement, ce qui supposait donc des verres plus façonnés, plus épais, ce que savaient très bien faire les verriers anglais.
Une fois de plus.
Parce qu'ils utilisaient, ayant épuisé, si vous voulez, ayant brûlé toutes les forêts de l'Angleterre, ils avaient trouvé du charbon à Newcastle dans les années 1620-1630. Et c'est à partir de l'utilisation du charbon de terre que l'on peut faire des verres beaucoup plus solides. Alors, on va avoir des flacons qui sont solides et qu'on peut coucher, et on les obture avec des bouchons de liège on retrouve le Portugal. C'est le Portugal qui a les plus, dans l'Algarve, les plus grandes, et l'Alentejo, les plus grandes forêts de liège d'Europe et peut-être même du monde, de sorte que on a désormais des bouteilles que l'on peut boucher avec du liège, de sorte que le vin est en contact avec le bouchon et que le bouchon hermétique et le vin vieillissent ensemble, si vous voulez. Et c'est là le secret du vieillissement qui permet l'apparition désormais de vignobles, enfin d'une viticulture beaucoup plus soignée et même désormais... qui va se repérer avec un nom de lieu, un bien précis, une parcelle, un propriétaire, un château, comme on dit en bordelais.
Un climat.
Ou un climat en Bourgogne, voilà. Généralement, on dit d'ailleurs le mot le plus générique dans le vocabulaire français ancien, c'était clos, qui est resté aujourd'hui...
Clos-Vougeot,
voilà. Mais on disait clos en bordelais aussi. L'appellation château n'est systématique en bordelais qu'à partir des années 1850-1860. Dans le classement des vignobles bordelais en 1855, auquel on fait toujours référence, il n'y en a que 3 ou 4 qui portent le nom de château.
Donc c'est un effet de mode
C'est un effet de mode, mais de mode qui a explosé d'un seul coup, puisque aujourd'hui, enfin dans les dernières décennies du 19e siècle, et aujourd'hui, il y a plus de 5000 appellations château en bordelais, alors qu'en Bourgogne, on est resté à l'appellation clos ou climat, voilà. Ceci pour dire, vous voyez, qu'il y a des variations très considérables qui peuvent dérouter le consommateur d'aujourd'hui, peuvent faire croire à des erreurs, mais l'histoire, les textes sont là pour nous prouver qu'il y a eu des changements vraiment considérables au cours du 19e siècle, on dira.
Et la façon dont cette appellation de château se répand dans le Bordelais, c'est pour des raisons commerciales, c'est d'ores et déjà du marketing ou...
Oui, on peut dire ça, oui, bien sûr. C'est parce que effectivement les meilleurs, les crus les plus anciens, ceux qui se sont spécialisés, le premier a acquis un nom de lieu, c'est le château Latour et le château Lafitte en Médoc. Ce sont là et il s'appelle château là très tôt, tout de suite. 17e et pour le Médoc pour le 18e siècle.
Aujourd'hui d'ailleurs, je crois que cette façon de faire très française, de découper en château ou en clos ou en climat, oui, est remise en cause par les nécessités d'un marché de...
Mais c'est-à-dire que cette nomenclature déroute le consommateur américain ou chinois et il leur faut une référence plus simple et ils préfèrent avoir une référence de cépage. On a Syrah, Sauvignon, on vend sous le... Peut-être il y a un lieu de provenance générique d'une province, mais on vend plutôt le vin d'un type de cépage.
Pour les multicépages, ça va être plus compliqué, alors.
Oui, mais c'est-à-dire que le multicépage suppose là une spécialisation, un travail, une science, une maîtrise de la vinification qui est contemporaine, mais qui est au fond tardive.
Oui, qui se répand, parce que dans mon coin, en l'occurrence le Comtat Venaissin, il y a de plus en plus de vignerons qui renoncent même à l'appellation qui implique... De se tenir à un type de cépage ou de mix de cépage pour décider de travailler leur vin en adjoignant de nouveaux cépages, par exemple.
Ah ben oui, non, mais c'est-à-dire qu'il y a deux marchés différents, parce que le nom de simple cépage, si on l'appelle, je ne sais pas moi, Merlot, Syrah, il est vendu bien moins cher, il est vendu 3 ou 4 euros la bouteille, alors que s'il s'agit d'un cru, on aura des prix qui commencent à mettons, 12, 15 euros.
Mais ce qui tente à prouver qu'on a longtemps cru que la mondialisation et la nécessité de s'investir dans un marché mondial allait forcer une forme d'uniformisation, c'est pas forcément le cas.
Non, parce que c'est tout de même un commerce de qualité. Pour nous, en France, c'est quelque chose qui fait, ou en Italie aussi, ou en Espagne, c'est quelque chose qui fait partie de la consommation quotidienne. Mais aux États-Unis, c'est au contraire, le vin est un jour de fête. Il n'appartient pas, je dirais, à la quotidienneté.
Alors, quitte à blesser notre orgueil national, vous nous expliquez que de nombreux vins du Nouveau Monde ont d'ores et déjà une histoire, ne sont pas seulement une affaire d'industrie récente.
Mais on peut dire que, par exemple, pour l'Amérique, du Nord et du Sud, le vin a été introduit par les colons, les navigateurs et conquistadors européens qui, étant chrétiens et catholiques, et ou bien protestants, la consommation du vin est tout de même un élément quotidien, la vigne arrive très tôt. Elle arrive en Amérique du Sud, au Chili, et dans l'actuel, si vous voulez, Argentine, Pérou, dès les années 1550-1560, introduite par les religieux augustins, franciscains, qui vont le développer et même le répandre, l'acculturer dans la consommation locale, indigène, des colons qui sont venus d'Andalousie, des pays cantabriques ou d'Italie, mais aussi dans la population indienne. Dès la fin du deuxième partie du XVIe siècle. Et puis, au nord, dans la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le Mexique, le vin est implanté, il ne remplace pas les alcools indiens, mais il est bien sûr développé tout de même dans le plateau mexicain. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, il va trouver un terroir plus favorable encore dans la basse et la haute Californie. Là aussi, ce sont des moines franciscains qui, c'est dans les années 1780-1810 que le vin est implanté du côté de la région de Los Angeles, c'est-à-dire le sud de la Haute Californie, de la Californie américaine, qui est alors à peu près déserte et où il y a des populations indiennes clairsemées que les franciscains regroupent dans des pueblos et initient à la viticulture. Ces vins, le vin qui sont célèbres aujourd'hui, de Sonoma par exemple, apparaissent dès les années 1810-1820. Et puis, dans les années 1840, au moment où il y a une agglomération qui se forme autour de San Francisco, elle est contemporaine de la ruée vers l'or des années 18, de l'exode d'Europe, 1847-1848. Et cette population qui va se grouper dans le mirage des terrains aurifères, qui va grouper des dizaines de milliers d'habitants, sont des consommateurs de vin et c'est là qu'ils vont trouver leur efflorescence. Sonoma et Napa Valley, qui ont donc des lettres de noblesse, d'ancienneté et d'origine espagnole. Ensuite, ces vignobles de Californie vont être affectés par le phylloxéra ils sont ranimés au cours du XXe siècle, souvent avec des cépages bordelais. C'est ce qui est aujourd'hui, qui fait leur très grande qualité.
Parmi les multiples anecdotes qui parsèment le livre, il y en a une qui m'a particulièrement frappé, parce que je l'ignorais totalement, ce sont les liens du Coca-Cola avec le vin.
Alors,
les bras m'ont
oui, tombé. C'est-à-dire que dès la fin du XVIIe siècle, on a des boissons réconfortantes qui sont à base de vin sucré et d'écorce de quinquina qui est un remède souverain contre les fièvres, contre le paludisme et ces boissons toniques apparaissent à Londres dans les années 1680-90. À la fin du 19e siècle, elles sont recommandées par les médecins contre la grippe, contre justement les fièvres légères. Et on a un exploitant qui s'appelle, je crois, Mariani, qui va diffuser cette boisson tonique que boit la reine Victoria, le pape Léon XIII, et dans des étiquettes, il se flatte d'être fournisseur de sa sainteté, le pape Léon XIII, et de la reine d'Angleterre. C'est ensuite cette liqueur de Mariani va être développée dans les années 1890, notamment à Atlanta, en Géorgie, dans la mesure où il se trouve que très tôt, l'opinion puritaine très importante en Amérique du Nord va tenter de, enfin prohiber même dans les villes, puis généralement dans l'ensemble des États, la consommation d'alcool, dont les boissons toniques, en quelque sorte, vont prendre un essor qui vient de l'interdiction de l'alcool. Et alors la compagnie de Coca-Cola apparaît donc à Atlanta dans les années 1890, et à l'origine c'est un vin tonique, parfumé au quinquina.
Avant de devenir simplement une...
Une boisson tonique,
soda,
oui, mais soda qui contient, je crois, enfin je ne saurais pas vous dire la composition chimique, mais il y a des éléments qui sont à base d'écorce, oui, de plantes.
Alors vous avez souligné le lien qu'il peut y avoir entre l'essor d'une telle boisson et la législation, mais depuis les origines, la législation, la volonté de contenir le vin ou de contraire en libérer le commerce a joué un grand rôle dans les variations.
Elle est assez tardive. On a au XVIe, XVIIe siècle une condamnation de l'ébriété comme choquante dans la mesure où celui qui est ivre perd le contrôle de lui-même, se ridiculise, peut commettre des déviances et des péchés, et puis dépense l'argent de sa famille au détriment de sa femme et ses enfants. Donc c'est une condamnation morale. Et le danger de l'alcoolisme n'est perçu que tardivement. Au XVIIIe siècle, à Londres, les magistrats s'inquiètent beaucoup de la diffusion du rhum et du gin, ils n'arrivent pas à le contrôler dans la mesure où toutes les mesures de restriction suscitent des émeutes violentes des foules londoniennes dans les années 1750-60. Et c'est seulement au XIXe siècle que les pouvoirs publics prennent conscience du danger de l'alcoolisme. Il est assez significatif et que le terme d'alcoolisme dans la langue française n'apparaît dans les traités d'hygiène publique qu'en 1849, la première occurrence. Et donc, vous voyez, on a condamné d'abord l'ivresse d'un point de vue moral et d'un point de vue de santé publique et d'hygiène publique seulement dans la deuxième partie du 19e siècle. Et pour les Anglais, par exemple, alors pour les Français, le contrôle de la vente d'alcool et la condamnation de l'ivresse sur la voie publique est de 1873. Pour l'Angleterre, c'est seulement en 1915 qu'on restreint, si vous voulez, les horaires des pubs.
En revanche, il y a des zones géographiques. Par exemple, vous consacrez un chapitre à Paris et on voit que selon qu'on est en dehors ou à l'extérieur de l'octroi, c'est pas le même type de vin.
Alors,
même si
oui,
c'est pas interdit, c'est réglementé.
Il se trouve que à Paris, énorme ville qui a déjà 200 000 habitants à la fin du XVIe siècle, qui est une des plus grandes villes de l'Europe. On va essayer d'améliorer la qualité. Le Parlement de Paris prend des mesures pour lever des droits à l'entrée et pour contrôler les arrivées de vin dans Paris. Ceci amène à rendre, à écarter en quelque sorte des vins de qualité qui sont découragés, si vous voulez, par les prix, et à valoriser les vins qui des environs, des collines, des environs de Paris, d'Argenteuil, de Suresnes, qui sont bu. En dehors de l'enceinte de la ville de Paris, pour éviter justement les droits d'entrée, et vont donc se développer des tavernes, des cabarets, en dehors des portes, et qui prennent le nom au XVIIe, XVIIIe siècle de guinguette. Guinguette qui veut dire au départ une maison étroite. Et ensuite devient le terme de cabaret. On marque les cabarets, c'est pas seulement à Paris, mais partout, en France, en Angleterre, en Italie aussi bien, par un ramage de feuilles qui correspond au fond à l'arrivée du vin nouveau, et puis qui reste sur l'enseigne, qui va jaunir au cours de l'année. Alors, ces vins qu'on boit dans les guinguettes sont donc médiocres. Dans les bonnes familles de Paris, je ne sais pas, dans l'aristocratie, à la cour, ou les familles du Parlement de Paris, on boit des vins de leur propre terre, de leur cru, qui peuvent entrer, alors que ce sont des bourgeois de Paris, sans payer de taxes particulières, du fait que
c'est pas un commerce,
le,
que c'est leur propre
vin de leur famille. Ça, ce sont des vins meilleurs, bien sûr, qui peuvent être aussi des environs de Paris. Par exemple, les vins de Fontainebleau, de Moret-sur-Loing, sont réputés. Mais on boit aussi, alors, un peu plus cher. Donc, les vins qui viennent d'Auxerre, de Sens, et qui ont descendu le cours de ce qu'on appelle, aujourd'hui, c'est le département de Lyon, mais ça, c'était la Basse-Bourgogne. Ils descendent le cours de Lyon, donc ils approvisionnent facilement Paris, et ils arrivent sur le port au vin qui est à l'emplacement aujourd'hui de l'université Paris 7, vous voyez, de Jussieu, les quais de Jussieu, qui était le port au vin. Et alors aussi, on buvait du vin de Champagne, qui était un rouge léger, puisque le vin mousseux, pétillant, blanc de Champagne ne se généralise véritablement qu'au XVIIIe siècle et explose au XIXe, dans la deuxième partie du XIXe siècle.
Vous nous racontez pourquoi ?
Eh bien, alors, le vin qui mousse, et qui a des bulles de gaz carbonique, apparaît empiriquement au cours du XVIe siècle, où il existait depuis peut-être très longtemps. Simplement, on le signale, la Blanquette de Limoux, la Clairette de Die, sont dès les années 1550. Il y en a à ce moment-là aussi en Champagne, mais ce sont des accidents. C'est un vin blanc, pétillant, mousseux. Alors, on comprend le processus de renouveau de fermentation à la fin du XVIIe siècle. On y associe le nom de Dom Pérignon, qui était le procureur temporel de l'abbaye d'Auvilliers, abbaye cistercienne, mais en fait, il est contemporain. Il est d'une époque où l'on on mesure, si on peut dire, le processus de l'apparition de l'effervescence. C'est que, avec des vendanges tardives, dans les premières gelées, les premiers froids du mois de novembre, la fermentation en cuve s'arrête avant que tout le sucre contenu ait été transformé en alcool, de sorte que à la lune de Mars, le sucre restant se remet, relance une fermentation chargée de gaz carbonique qui va culminer en juin environ. Et alors on le garde en cave et puis au bout d'une demi-année environ, s'il est resté pétillant, on le vend un peu plus cher. Et s'il est tranquille, s'il est redevenu plat, sans mousse, on le vend au prix courant. Alors simplement pour assurer le maintien des présences de gaz, il faut une obturation solide. Sinon, les gaz font éclater la bouteille. Et c'est seulement au cours du début du 19e siècle que l'on prend les techniques qui permettent de conserver la plus grande partie des bouteilles intactes. Encore vers 1800-1820, il y a 30-40% des bouteilles qui éclatent, et ce qui oblige les manutentionnaires qui travaillent dans les caves de champagne de circuler avec des masques de fil de fer pour les protéger des éclats de bouteilles. Et c'est seulement dans les années 1830 qu'un pharmacien de Chalon prend la mesure exacte de la quantité de sucre convenable et donc permet d'avoir un équilibre d'un vin mousseux qui n'est, si vous voulez, on peut avoir un demi mousseux, un crémant ou bien un vrai mousseux, mais pour ça il lui faut donc une dose de sucre particulière. Et à partir des années 1830-1840, on va avoir cette maîtrise technique qui permet alors là l'explosion commerciale du champagne, au point que du champagne blanc pétillant, qui devient, si vous voulez, un phénomène mondial gigantesque, et qui fait même disparaître le rouge originel des coteaux champenois, qui reste maintenant à 1 ou 2% simplement de la production de cette région.
En introduction de votre livre, vous dites qu'il ne servira pas à donner des conseils sur telle ou telle appellation, sur tel ou tel cépage. Mais est-ce qu'à l'oral, vous ne voulez pas nous donner quelques...
Mais non, je ne voudrais pas m'y aventurer. Non,
alors... Nous faire part de vos goûts, simplement.
Alors, mes goûts, je dirais que dans la mesure où je suis bordelais, je vais tout de même dire un petit peu le plaisir qu'on peut avoir à boire du Médoc. Le duc de Richelieu, au XVIIIe siècle, gouverneur de Guyenne, disait que dans le Médoc, il y a un aspect sournois, nullement désagréable, capiteux, qui enchante le palais. Mais le Médoc donc est assez tardif. Le Saint-Émilion a aujourd'hui une fortune gigantesque. Elle est également tardive, elle ne date que de la fin du 19e siècle. Je recommanderais peut-être les côtes de Blaye, les côtes de Bourg, le Pomerol, qui sont peut-être moins connus du grand public. J'ai découvert assez tardivement le Condrieu, que je trouve extraordinaire, c'est un vin blanc qui résulte d'un cépage particulier, le Viognier, qui est sur, si vous voulez, on est en aval de Lyon, sur des coteaux de la rive droite, qui viennent en abrupt sur le fleuve, avec une viticulture en terrasse, un peu comme le paysage du Porto, et qui produit un vin blanc, si vous voulez, qui a une saveur extraordinaire. J'aime alors les vins italiens. Alors j'ose pas recommander des Bourgognes. Jean-Robert Pitt est plus savant que moi, plus capable, si vous voulez, de vous dire exactement ce qu'il faut boire en Bourgogne, en Champagne, en Côte-du-Rhône. Ce sont des vins qui sont tout à fait, si vous voulez, recommandable, mais il se trouve que je n'ai pas la capacité je les goûte avec le plus grand plaisir, mais je ne suis pas capable de vous donner des indications suffisamment fondées. Comme j'aime beaucoup l'Italie, je dirais qu'il y a un vin qui est fabuleux, c'est le Brunello di Montalcino. On est dans la zone du Chianti, et le Brunello, c'est un cépage qui de la famille des Sangiovese, qui est le cépage majeur en Toscane et donc dans le petit territoire du Chianti. Et ce Brunello alors de Montalcino, c'est un lieu du Chianti qui est à côté de Cortona, et il y a là, si vous voulez, c'est un vin qui est prodigieusement un rouge qui est, comment dire, très parfumé, très assez épais, vraiment un goût fort séduisant. Alors, que dire, j'aime beaucoup aussi les vins du Trentin, les vins siciliens également. Alors voilà, j'arrête là mon énumération.
Vous parlez aussi beaucoup du Vermentino, non?
Le Vermentino,
oui. Qui se répand, ce cépage qui se...
Oui, oui, oui. Alors, il y a des vins de Corse qui résultent du Sangiovese, le Nieluccio, qui est dans la zone du patrimonio, c'est-à-dire la racine, si vous voulez, du Cap Corse. Là, les vins corses sont très parents des vins toscans. Ils ont souvent les mêmes cépages apportés par les marchands de Pise au cours du Moyen-Âge.
Yves-Marie Mercet, merci beaucoup. Je crois qu'à l'issue de cet entretien, on comprend que pour apprécier les vins, il faut peut-être se consacrer un petit peu.
Il faut... Non, je voudrais pas avoir l'idée d'être chauvin. Hein. Tous les vins du monde méritent d'être étudiés et goûtés.
Exactement, mais c'est ce que j'allais dire. Ce qui rajoute au plaisir du vin, c'est quand on se penche sur l'histoire du vin et dans les secrets du vin, car, comme je le disais en introduction, le vin, c'est aussi une culture. Et il prend une saveur particulière lorsqu'on découvre, grâce à vous, son histoire. Merci beaucoup d'augmenter ainsi le plaisir gustatif que nous allons ressentir lors de nos prochaines libations.
Merci, à votre bonne santé.
Je reprécise les références de l'ouvrage « Les secrets du vin » qui ne n'auront donc plus pour les lecteurs, par Yves-Marie Bercet. C'était la librairie Vuibert. Encore merci, monsieur.